Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Annette Joseph Gabriel autour de son ouvrage « Imaginez la libération des femmes noires face à l'Empire » paru aux éditions Robocrique le 27 juin 2023 à la librairie Terra Nova.
Et donc bonsoir, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir Annette Joseph Gabriel pour une présentation de son livre « Imaginez la libération ». Des femmes noires face à l'Empire, paru aux éditions Robocrique. La discussion sera animée ce soir par son traducteur et éditeur Jean-Baptiste Naudy et par son éditrice Sarah Friou-Salgas. Voilà, comme d'habitude, après les échanges entre eux, il y aura un temps d'échange avec vous. Je ferai passer le micro parce que la rencontre est enregistrée, ça passe par les micros. Voilà, et c'est tout, je vous souhaite une bonne rencontre.
Okay. Donc, bah, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour écouter Annette. Donc je disais merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir. Et puis donc nous, on est très contents d'être à Toulouse et on est très contents de faire notre première présentation à Toulouse dans cette librairie qui est très belle et très accueillante. Alors merci aux camarades de Terra Nova de nous accueillir. Donc notre maison d'édition, elle s'appelle Robocrique et elle existe donc depuis un an maintenant. Et donc voilà, on a déjà publié 6 livres, dont celui d'Annette, qui nous fait le plaisir d'une visite en France. Elle est venue en partie pour faire un travail d'archives et ses recherches pour ses prochains ouvrages, mais on en a profité pour faire une série de présentations autour de ce livre sur lequel on travaille depuis longtemps, en fait, déjà. Depuis avant même la création de notre maison d'édition, puisque Sarah et moi, précédemment, on s'est occupé d'une collection chez un autre éditeur qui s'appelle les Éditions Place et qui est un éditeur qui a beaucoup publié de facsimilés, notamment de revues liées à l'anticolonialisme. Donc, par exemple, c'était l'éditeur qui avait fait recirculer la revue Tropique
ou la revue du Monde Noir de Paulette Nardal.
Voilà, ou même Légitime Défense, enfin tout un tas de revues qui ont été très importantes dans l'histoire de l'anticolonialisme français. Et quand on a découvert le livre d'Annette Joseph Gabriel, il nous a semblé important d'amener une nouvelle approche de la question de la libération anticoloniale du point de vue des femmes noires, et notamment du point de vue donc, de deux femmes qui ont été particulièrement actives dans ce domaine des revues anticoloniales, à savoir Suzanne Césaire et Paulette Nardal. Et un autre lien qui nous a amené vers ce livre, juste pour poser le décor et expliquer comment nous, on est arrivés depuis la France à ce livre, qui a donc été publié aux États-Unis à la fin de l'année 2019,
c'est ça ? 2020.
2020 déjà, ouais. Juste avant la pandémie, c'est ça. C'est que nous avions également publié, donc, dans le cadre de cette collection aux éditions Place, un journal de voyage d'une anthropologue africaine-américaine qui s'appelle Eslanda Robson. Donc son premier livre publié qui s'appelle donc Le Voyage africain. Et quand nous faisions des recherches autour de Eslanda Robson au moment de la publication de ce livre, on est tombé également sur elle dans le livre d'Annette Joseph Gabriel. Donc un livre qui réussissait à lier comme ça trois femmes qui étaient si importantes dans le corpus de textes autour duquel on travaillait, que ce soit Suzanne Césaire, Paulette Nardal et Eslanda Robson, de voir Eslanda Robson arriver au milieu de cet aéropage de militantes, ça nous a semblé très intéressant. Et on a commencé à ce moment-là à travailler à la traduction et à vouloir publier le livre d'Annette Joseph Gabriel en France. D'autant plus qu'il nous semblait que c'était une approche de l'histoire de l'anticolonialisme qui n'existait pas ici, où finalement, quand il y a de la place pour un certain nombre de protagonistes féminins, elles sont souvent isolées, présentées de manière unique ou comme ça un peu flottante dans l'espace, sans jamais montrer les liens, les connexions, les passages, les échanges et les réseaux qui ont pu se constituer dès la fin des années 30 dans tout ce réseau de militantisme féminin, anticolonial et à bien des écarts on pourrait considérer même afroféministe déjà. Voilà l'origine de ce projet dans notre maison d'édition. Et peut-être, Sarah, tu veux présenter le principe du livre ?
Pour revenir sur ce que tu dis, pour nous, c'était important de sortir de l'effet icône, en fait, qui est quelque chose qui est une sorte de facilité pour aborder une contre-histoire, etc., qui est un petit peu les problématiques du moment. Et nous, la manière dont Annette a proposé d'aborder le parcours de ces femmes, notamment par leurs textes. Et c'était voilà, pour nous aussi une manière de s'émanciper d'objets féminins. Voilà, on choisit son icône, Suzanne Césaire, Paulette Nardal. Et là, vraiment, la manière dont Annette, elle vous en parlera mieux que moi, évidemment, décide de nous présenter l'histoire politique et intellectuelle de ces femmes était tout à fait... Original et fondamental à nos yeux, surtout voilà, c'est un livre publié aux États-Unis et on a voulu faire ce livre aussi très vite parce qu'en finalement je suis assez contente, il a été publié en 2020, il est publié en 2022, souvent ce genre de texte met un peu de temps à arriver en France et donc voilà, je pense qu'aussi on est très content d'avoir réussi un petit peu que très vite ce que Annette nous propose puisse être accessible au public français et francophone.
Annette, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par expliquer aux gens la genèse de ton projet, comment t'en es arrivée à travailler sur ces femmes-là, comment s'est fait ton choix parmi toutes les militantes que tu aurais pu évoquer et comment, en partant donc du premier chapitre et de la figure de Suzanne Césaire, comment tu as développé ton projet?
Oui, donc, alors, tout le monde m'entend ? Vous m'entendez bien ? Ok, super. Oui, donc, les origines de ce projet, en fait, comme j'ai expliqué ailleurs, mon parcours est vraiment dans la littérature francophone, on va dire. J'ai beaucoup étudié la littérature antillaise. Et lors de mes études, je me suis rendu compte que j'entendais beaucoup parler d'Aimé Césaire, de François Fanon, de Léopold Senghor, que j'étais capable de citer tous ces écrivains masculins, enfin, ces hommes, mais que je connaissais très, très peu, en fait, sur les parcours des femmes, sur les écrits des femmes. Et non seulement sur leurs écrits, mais ces hommes que je viens de citer étaient aussi des hommes politiques, des militants. Donc, je connaissais très peu, non seulement sur le côté littéraire, mais aussi sur le plan politique. Quelle a été l'expérience des femmes à cette époque dans la lutte anticolonialiste? Qu'est-ce qu'elles, elles ont contribué à cette lutte? Et donc, c'était les questions à l'origine de ce projet. J'ai commencé par Suzanne Césaire parce que, j'ai lu Cahier d'un retour au pays natal pour la première fois et ça m'a complètement changé la vie. Je suis ghanéenne et je faisais mes études aux États-Unis, dans une partie des États-Unis, dans le Massachusetts, qui est dans un coin très, très isolé, en fait, et j'étais très dépaysée. Et j'ai lu Cahier d'un retour au pays natal et j'avais l'impression de quelque part retrouver mes racines, mais aux Antilles, venant du Ghana. Et donc j'ai d'abord passé un an en Martinique. Et c'est à partir de là où je me suis vraiment intéressée aux écrits de Suzanne Césaire, parce que je trouve qu'elle avait une vision sur l'identité noire, l'identité antillaise, qui était assez différente de la vision d'Aimé Césaire, de son mari. Et donc, je voulais creuser un peu plus ce que je dis souvent, enfin, par rapport au choix de ces 7 femmes. Donc, je vais quand même dire leur nom parce que c'est quand même bien de les citer. Donc, dans le livre, il s'agit d'abord de Suzanne Césaire, ensuite de Paulette Nardal. Dans le troisième chapitre, je parle de Jeanne Vial et d'Eugénie Ebouetel ensemble pour essayer de relier l'expérience d'une femme africaine et d'une femme guyanaise qui a aussi vécu aux Antilles, qui a aussi vécu en Afrique. Donc, vraiment pour faire le lien. Et ensuite, je parle d'Awa Keita au Mali, d'André Blouin au Congo et finalement d'Eslanda Robson, donc une femme américaine qui a voyagé vraiment dans tous ces territoires. Donc voilà, j'ai choisi ces 7 femmes parce qu'au début, j'avais l'impression que le problème que j'allais rencontrer, en fait, ce serait vraiment le problème de lacunes, que je n'allais pas trouver assez de femmes pour faire tout un livre. Et au final, le problème que j'ai rencontré, c'était le contraire. Il y avait vraiment beaucoup de femmes qui ont lutté, qui ont participé dans les luttes anticolonialistes ici en France, aux Antilles, en Afrique. Donc, il fallait vraiment faire un choix. Après, je dis qu'il y a beaucoup de femmes, mais pour certaines femmes, il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Donc, le problème de lacune était toujours là. Mais chaque femme, en fait, m'a emmenée vers une autre dans les archives. Je trouvais une lettre d'une femme à une autre et je continue à suivre le fil de cette manière. Donc, par exemple, Suzanne Césaire, qui est le premier personnage, on va dire, dans le livre, arrive en Martinique à la veille de la Deuxième Guerre mondiale sur un paquebot qui s'appelle le Bretagne. Et Paulette Nardal quitte la Martinique le lendemain, en fait, pour retourner à Paris. Il se passe tout un drame après, mais sur le même navire. Donc, on a vraiment cette continuité. Donc, même s'il s'agit de 7 femmes différentes, il y a quand même cette continuité aussi dans la structure du livre, parce que je trouvais ces liens. Ce sont des femmes qui privilégiaient vraiment des liens, des réseaux dans leur vision politique, en fait. Donc, comme Sarah et Jean-Baptiste ont dit, il ne s'agit pas de vraiment le personnage féminin, enfin au singulier, mais ce sont des femmes qui ont vraiment privilégié le collectif dans leurs actions.
Alors déjà, je voudrais juste dire ça, parce que ce n'est peut-être pas nécessairement clair, c'est que c'est un livre donc, qui est constitué en chapitres, chacun étant dévolu à une de ces figures, mais ce n'est pas un livre qui passe par la biographie. C'est un livre, donc c'est une galerie de portraits, si on veut, mais c'est un livre qui procède par moments clés, en fait, et qui décrit des moments absolument clés de la vie de chacune de ces militantes, qui sont aussi des intellectuelles, qui sont aussi des autrices, qui sont aussi, voilà. Donc, pour donner un exemple, et puis après, peut-être, tu peux développer, Suzanne Césaire, qu'on connaît principalement parce qu'elle a été la grande coordinatrice de la revue Tropique, qui est une des revues les plus importantes de l'histoire de l'anticolonialisme au XXe siècle, et dont on connaît les textes publiés dans Tropique. Toi, tu te concentres sur un voyage qu'a fait Suzanne Césaire en Haïti et sur les conséquences de ce voyage pour elle. Tu peux nous expliquer ?
Oui, donc oui, je pense que quand on parle de Suzanne Césaire, on parle souvent de Suzanne Césaire dans le contexte de la négritude. Donc toujours cette lutte, cette quête d'identité des Antillais face à leur expérience coloniale. Donc vraiment face à la France, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de son identité, de se dire un homme noir ou une femme noire en tant que sujet de la France ? Et Suzanne Césaire rentre vraiment dans ce cadre jusqu'à son dernier essai. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas publié énormément de textes. Elle a publié 6 ou 7 textes seulement. Et nous avons pendant longtemps, en fait, reconnu qu'il y a une grande différence entre ses 6 premiers essais et son dernier, où il s'agit de ce texte. C'est un texte vraiment lyrique, où il y a cette vue panoramique sur les Caraïbes, sur les Antilles, sur la flore aux Antilles. Et il ne s'agit plus, en fait, de définir le personnage noir face à l'Européen, face aux Blancs, face aux Français, face à la France. Il s'agissait vraiment de se dire antillais, de dire je suis antillaise, d'identifier, de retrouver ses racines aux Antilles. Ça peut paraître normal, peut-être aujourd'hui, en 2023, mais aux années 40, c'était vraiment radical. C'était déjà radical pour des Antillais de se tourner vers l'Afrique pour dire nos racines sont aussi en Afrique. Mais les Antilles, dans cet imaginaire, étaient vraiment un endroit vide. C'était vraiment le lieu uniquement de la déracination. Pour Suzanne Césaire, elle va dire qu'on peut aussi trouver nos racines, notre identité, notre façon de voir et de comprendre le monde ici aux Antilles. Et ce qui n'a rien à voir ni avec l'Afrique, ni avec la France. Ce qu'on constate, en fait, c'est que ce changement dans sa vision intellectuelle, dans sa philosophie, a lieu justement en 1944, lors d'un voyage en Haïti, où Aimé et Suzanne Césaire sont envoyés, donc c'est le paradoxe, mais total, ils sont envoyés, en fait, par le gouvernement colonial en Martinique. Ils sont envoyés en Haïti dans une sorte de mission culturelle pour propager l'image de la France en Haïti, pour vraiment contrer la propagation de l'image et du pouvoir américain en Haïti. Donc Haïti devient en fait ce lieu de cette lutte culturelle entre la France et les États-Unis. Et donc Aimé et Suzanne Césaire sont envoyées en Haïti vraiment dans le cadre de cette mission. Et c'est là où elle va trouver vraiment cette vision des Antilles comme aussi, comme aussi un lieu où on peut penser une philosophie noire, une philosophie du monde noir. Donc ce voyage en Haïti, et tout ça passe par exemple par le créole haïtien. Elle entend une expression créole haïtien, laisser graine. Et pour elle, cette expression va vraiment exprimer une sorte d'ontologie, une sorte de soi antillais. Donc voilà, c'est ce que je trouve intéressant vraiment dans la pensée de Suzanne Césaire, dans ce voyage, c'est que contrairement aux autres penseurs de son époque, Haïti n'est pas cette sorte de substitution pour l'Afrique aux Antilles. Haïti, c'est vraiment les Antilles où on peut vraiment penser à enraciner une philosophie aussi dans l'espace, dans l'environnement antillais, dans la langue créole. Et tout ça, c'était vraiment assez radical aux années 40, où c'était vraiment la lutte entre noir et blanc, la lutte entre l'Afrique et l'Europe, etc., dans la pensée négritudienne. Donc voilà. Mais Suzanne Césaire est un personnage vraiment, vraiment intéressant, parce que pour quelqu'un qui a publié si peu, elle avait vraiment des idées puissantes qui retentissent toujours aujourd'hui. Je disais il y a quelques heures qu'il y a des musées aux États-Unis, en Floride, au Texas, qui s'intéressent aujourd'hui au travail de Suzanne Césaire et qui sont inspirés par son travail et qui préparent des expositions sur elle. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a des idées qui sont toujours importantes pour nous aujourd'hui. Des idées non seulement sur l'identité, mais aussi sur la définition de la libération. Qu'est-ce que ça veut dire d'être libre? Quelles sont nos sources d'inspiration pour vraiment sortir des impositions impérialistes que nous vivons toujours aujourd'hui?
Et est-ce que, comme on est un peu en Martinique, est-ce que tu voudrais aussi nous parler de Paulette Nardal et aussi dans ta proposition où aujourd'hui Paulette Nardal, qui est aussi martiniquaise, qui a créé la revue du Monde Noir, qui commence à être un petit peu visible justement sur sa place dans le champ intellectuel dans la métropole. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu t'intéresses à la deuxième partie de sa vie, justement à la Martinique, et un engagement qui est rarement évoqué, en fait, et aussi son engagement féministe, mais qui est plus complexe que ce qu'on projette sur elle aussi.
Oui, oui. Donc, pour ne pas donner une réponse aussi longue que la précédente, je dirais deux choses sur Paulette Nardal. La première chose, c'est que pour Paulette Nardal, je me suis vraiment concentrée sur sa vie, ses écrits et son travail politique en Martinique durant et juste après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que, même, comme tu as dit, on connaît de plus en plus Paulette Nardal, mais je pense pour son travail ici en France, pour les revues en fait, qu'elle a éditées dans la période d'entre-deux-guerres. Mais Paulette Nardal en Martinique est très peu connue. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu me concentrer sur vraiment le travail qu'elle a fait en Martinique. Alors, ça, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous sommes en 1945, 46, 47, 48. il se passe deux choses très importantes dans l'histoire de la France. D'abord, le suffrage féminin en 44 et ensuite la départementalisation en 46. Et donc, vraiment, les nouvelles citoyennes qui peuvent vraiment voter sont des femmes dans les anciennes colonies, en fait. Et pour Paulette Nardal, donc, c'est un moment clé pour faire ce travail de sensibilisation, pour encourager les femmes, les Antillaises, à faire entendre leur voix en allant aux urnes, en se présentant pour les élections, etc. Donc, voilà. Je me suis intéressée par Paulette Nardal en Martinique parce que je voulais aussi déplacer un peu le centre de la connaissance qui n'est pas tout le temps la France. Il se passe aussi des choses aux Antilles. Et donc, Paulette Nardal travaillant aux Antilles, pour moi, c'est important. La deuxième chose que je dirais par rapport à Paulette Nardal, c'est qu'au niveau de ses pensées, elle est très, très, très différente de Suzanne Césaire. Suzanne Césaire est radicale. Elle est inspirée par le surréalisme. Suzanne Césaire, c'est vraiment... ce qu'elle veut savoir, c'est comment libérer l'esprit. Paulette Nardal est une femme très respectable. Une femme de la bourgeoisie créole. Pour elle, la libération de l'exploitation des descendants de colons en Martinique, donc des béquets, ça passe par la nationalité française. Ça passe par la protection des droits, des lois françaises. Et donc, Paulette Nardal va vivre une sorte de contradiction qu'on va retrouver chez toutes ces femmes, d'ailleurs, mais à des degrés différents. Mais voilà, donc ce que j'ai voulu aussi montrer dans le livre, c'est qu'il ne s'agit pas de la voix de la femme noire. Il n'y a pas une vision de la femme noire. Il y a vraiment cette hétérogénéité, en fait, de vision. Et toutes ces femmes avaient des idées très différentes. Sur les stratégies, comment sortir du colonialisme, comment sortir de l'impérialisme, comment sortir de toute forme d'oppression. Elles vont employer vraiment des stratégies différentes. Et j'ai voulu montrer ces différences aussi dans le livre.
Bon, ça fait une transition parfaite parce que quand même, il y a une spécificité, évidemment, c'est que tu parles de l'Empire colonial français. Et l'Empire colonial français, il a quand même eu une saveur particulière qui est celle de l'idéologie républicaine, puisque la colonisation, l'essentiel de la colonisation française dans le monde s'est fait sous régime républicain. Et donc, il y a cette idée qui est extrêmement présente pendant tout le processus colonial de l'assimilation et qui va de pair avec la mission civilisatrice de la République française, donc dans les colonies. Or, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ton livre, c'est que précisément, tu essayes de montrer tout un arc de position politique qui va de femmes extrêmement assimilationnistes, enfin extrêmement, oui, assez assimilationnistes, oui, qui assument l'assimilationnisme et leur attachement au projet républicain français dans la lignée de la Révolution française et des Lumières, qui sont véritablement investis par cette idéologie française, on pourrait dire, jusqu'à des figures de radicalité totale, d'anticolonialisme révolutionnaire et de rupture complète avec le continuum impérial occidental. Alors, les deux femmes dont tu parles ensuite dans le livre sont des figures qui sont très intéressantes. Eugénie Eboué-Tel, d'une part, donc en général connue comme la veuve de Félix Eboué, mais qui a en fait une carrière politique tout à fait intéressante, pendant la 4e République, puisqu'elle va devenir, dans un premier temps, députée, puis sénatrice. Et d'autre part, Jeanne Viale, qui va être sénatrice donc d'Oubangui-Chari, qui est l'ancien, le nom colonial de la République centrafricaine, dont elle est originaire, et qui sont deux femmes que l'on pourrait considérer comme étant des républicaines françaises, qui sont toutes les deux, on pourrait dire, politiquement d'inspiration gaulliste, voilà, et dont l'entrée en politique se fait d'abord par leur participation à la résistance. Et donc, comment est-ce que cette histoire de la résistance, elle peut expliquer ou elle va fonder un certain rapport de ces femmes à l'idée de la libération par la République ?
Oui. Je pense que toute cette histoire n'est pas possible sans la Deuxième Guerre mondiale et sans la participation des femmes des colonies dans la résistance. Et donc, Eugénie Eboué-Tel, elle joue un rôle... Elle joue plusieurs rôles dans la résistance. D'abord en tant que mère qui voit ses enfants internés. et ses enfants, ses fils au moins, sont aussi dans l'armée. Ensuite, en tant qu'infirmière, aussi en Afrique équatoriale française, lors de la Deuxième Guerre mondiale, et aussi en tant que sorte de collaboratrice en fait de Félix Eboué, donc elle connaît en fait tout ce qui se passe dans le travail politique de son mari, qui est un des premiers administrateurs à répondre dans l'affirmative en fait à l'appel de Charles de Gaulle pour faire partie de la résistance. Donc voilà le rôle du Eugénie Boutel. Jeanne Vial, elle va jouer un rôle un peu différent. Elle est en fait, elle se retrouve à Marseille, donc elle habite à Marseille durant la guerre, et elle sera la secrétaire pour combat, en fait, pour Jean Gemaling, qui est un des chefs de combat, qui est une cellule de résistance, en fait, dans le sud de la France. Elle sera arrêtée pour ce travail, donc c'est un travail un peu clandestin, elle est espionne, en fait. Elle sera arrêtée, internée dans un camp de concentration, ensuite transférée dans une prison pour femmes à Marseille. Selon certains récits, elle s'évade de la prison. Elle disparaît complètement pendant quelques années. Elle réapparaît avec, je ne sais pas où elle a trouvé tout cet argent, mais avec un financement qu'elle a quand même trouvé. Je sais pas, elle a travaillé pour ça. Et elle fait sa campagne électorale et elle est élue au Sénat, en fait. Donc c'est un parcours vraiment, vraiment particulier, intéressant. Là où ces deux femmes se rejoignent, en fait, c'est non seulement leurs actions, en fait, dans le Sénat, mais c'est aussi le fait que pour chacune d'entre elles, en fait, elles disent à la France qu'à travers leur rôle, dans leur participation dans la résistance, la France avait maintenant une dette envers ses colonies. Parce qu'on a vu la Deuxième Guerre mondiale où la France est divisée. Donc, quand on pense à l'occupation, au régime de Vichy, la France est divisée. Et elles se disent, mais c'est à cette époque-là que les colonisés sont venus sauver la France d'elle-même, en fait. C'est le discours qu'elles vont tenir au Sénat. Et donc, à partir de là, c'est à la France maintenant de payer ses dettes elle proposait des lois, en fait, pour protéger les femmes et les enfants, pour avoir des financements pour des étudiants des colonies qui venaient étudier en France. Mais à la base de tout ça, donc en fait, il faut comprendre que c'est un peu renverser le discours colonialiste, le discours de la mission civilisatrice. Parce que la France a colonisé, pourquoi ? Pour donner sa civilisation aux, entre guillemets, sauvages. Et là, maintenant, on voit vraiment la France se déchirer lors de cette guerre, et ce sont les colonisés qui viennent sauver la France, enfin, selon ce discours. Et donc elles vont vraiment renverser ce discours colonialiste, et c'est la France maintenant qui est à la place de celui qui reçoit ce don des colonisés. Et ce sera un discours très efficace, en fait, parce que c'est aussi une période juste après la Deuxième Guerre mondiale où les élus, enfin au moins certaines élus, voulaient vraiment se montrer du bon côté de l'histoire. Donc, on ne veut pas du tout être du côté des fascistes. Et donc, justement, quand ces femmes proposent cela, ben, il faut quand même jouer le jeu. Et donc, elles ont pu quand même gagner quelques victoires, on va dire, dans le Sénat, dans les débats au Sénat, en utilisant cette stratégie. Après, il y a des limites. Il y a des limites parce que, comme tu as dit, nous avons vraiment des femmes qui rentrent dans cette logique assimilationniste, d'autres femmes non. Et je pense que la différence, c'est en fait le choix de l'espace qu'elles identifient comme l'espace de lutte contre le colonialisme, de lutte contre l'oppression. Pour les femmes comme Eboué-Tel et Vial qui ont choisi de travailler depuis l'intérieur du gouvernement, il y a toujours des limites. On ne peut pas, à mon avis, se libérer du colonialisme en faisant partie de la machine colonialiste. On va voir des stratégies différentes chez quelqu'un comme Awa Keïta, par exemple, qui, elle, va travailler complètement en dehors de cette machine, en dehors du gouvernement. Et donc, on voit, pas moins de limites, mais des limites différentes imposées vraiment à son travail. Mais pendant une période, c'était une stratégie efficace qu'elles ont employée en renversant quand même le discours de la dette coloniale et en mettant la France vraiment dans la place de celui qui devait recevoir ce don de salut des colonies.
pour faire le lien après avec André Bloin, on peut le faire par le prisme du métissage et de la question du métissage, qui est une question très importante politiquement, même dans la 4e République et dès la constitution de l'Union française, puisque Jeanne Vial est métisse. Elle est la fille d'un planteur français et de sa domestique centrafricaine. De la même manière que André Bloin, qui elle aussi est la fille d'un planteur français du Congo-Brazzaville, et de sa domestique, là aussi. Et ce sont des femmes qui vont être classées. Alors évidemment, l'Empire colonial français, il repose sur une compartimentation racialiste de la société, et dans laquelle les métisses se trouvent toujours entre deux catégories. Alors, ils appartiennent à une troisième catégorie, donc, qui est celle forgée par l'État colonial de métisses. Et par rapport à la figure d'André Bloin, est-ce que tu pourrais essayer de nous dire en quoi sa situation de métisse, sa situation très presque administrative de métisse, va la placer dans une position spécifique pour penser la multiplicité des appartenances, pour penser l'anticolonialisme à l'intérieur aussi d'une revendication française, et pour penser le panafricanisme aussi, de son point de vue à elle.
Oui, donc très rapidement, je dirais que l'histoire d'André Bloin est une histoire intéressante, parce que mes étudiants aux États-Unis sont toujours surpris quand je leur dis que la ségrégation n'a pas existé qu'aux États-Unis et que c'était pratiqué aussi dans les colonies françaises, donc la ségrégation raciale. Et donc justement, André Bloin, en tant que métisse, en fait, va grandir dans un orphelinat, parce que la pratique dans les colonies françaises, c'était d'arracher les enfants métis de leur famille, enfin des deux côtés de leur famille, et de les mettre dans des orphelinats. D'abord pour un peu cacher ou nier cette idée de proximité entre les races, cette idée de mélange entre les races, mais aussi pour les former, en fait, pour devenir les futurs cadres de la colonie, en fait. Donc il y avait ce double objectif dans ce geste, dans cette pratique. Donc pour André Bloin, elle avait l'impression toujours de vivre une contradiction. Parce qu'elle savait qu'elle avait un père, elle savait qu'elle avait une mère. D'ailleurs, sa mère venait la voir à l'orphelinat, mais on lui disait qu'elle était orpheline. Pour elle, c'était totalement illogique, c'était le paradoxe. Et donc, elle a commencé à questionner très tôt, en fait, toutes les pratiques dans la colonie. Non seulement cette institution des orphelinats pour les métisses, mais aussi toutes ces classifications raciales, en fait, qui est vraiment la base de la colonisation. Et donc, c'est ça aussi qui va informer sa politique et sa carrière politique après. André Bloin, peut-être comme Jeanne Vial, s'évade de l'orphelinat, en fait, et elle commence sa vie ailleurs. Elle subit une perte qui est encore liée à cette logique de ségrégation. Donc, elle perd son fils, qui a 2 ans, à un moment, parce qu'il tombe malade du paludisme, et les médicaments qui sont... le médicament qui pouvait lui sauver la vie, en fait, était réservé uniquement pour les Européens. Il fallait avoir une carte pour avoir accès à ce médicament, ce qu'elle n'avait pas parce qu'elle était métisse. Donc, encore une fois, elle voit cette contradiction. Quand on lui dit qu'elle elle est plus proche à l'Européen parce qu'elle partage le sang européen, son père européen, et pourtant... elle voit quand même son accès, elle n'a pas accès à ce médicament et son fils meurt de cette maladie. C'est quelque chose qui va complètement la radicaliser. Et donc André Bloin, en fait, pour elle, commence à travailler avec les chefs, on va dire, ou les dirigeants des mouvements indépendantistes en Afrique. Donc Patrice Lumumba au Congo, Sékou Touré en Guinée, Kwame Nkrumah au Ghana. Elle va travailler comme chef de protocole dans le cabinet de Patrice Lumumba. Donc, c'est une femme qui était beaucoup impliquée dans les mouvements anticolonialistes un peu partout en Afrique. ta question sur comment donc elle comprend la multiplicité d'appartenance, c'est exactement ça. C'est à cause de ces contradictions. Pour André Blouin, en fait, la société colonialiste n'était pas une société noire et blanche. L'histoire n'était pas noire et blanche. C'était vraiment, il y avait cette multiplicité en fait de voies d'expérience. Et donc pour elle, elle a voulu un peu dépasser ces contradictions, dépasser ces frontières artificielles. Et donc pour elle, en fait, ce que les gens trouvent un peu bizarre dans son autobiographie, c'est qu'elle se positionne de manière différente à chaque fois. Donc vous serez en train de lire une page où elle dit je suis métisse. Vous tournez la page, elle dit je suis noire. Vous tournez la page, elle dit je suis africaine. Vous tournez la page, elle dit je suis française. Et tu dis mais ok, d'accord, André, stop. Qu'est-ce que vous êtes, quoi exactement? Mais en fait, pour elle, ce n'est pas une contradiction parce qu'on peut être plusieurs choses à la fois, justement. Et c'est vraiment en refusant cette vision, cette vision binaire, cette dichotomie dans la société, qu'elle refuse aussi le modèle colonialiste. Et donc, on peut vraiment parler du panafricanisme chez elle, parce que pour elle, les frontières sont artificielles. Les frontières linguistiques, les frontières raciales, les frontières des pays, tout ça a été artificiel, tout ça a été créé, et donc pourquoi pas ne pas le dépasser. Je ne veux pas dire je ne veux pas donner l'impression que c'était facile, ou que c'était harmonieux, ou que c'était pas sans contradiction, ou sans difficulté, ou sans peine pour elle. Mais pour elle, enfin, contrairement à quelqu'un comme Césaire, qui pense vraiment aux Antilles, etc., André Blouin, elle pense vraiment à ces catégories coloniales. Il y a comment dépasser tout cela, en fait, pour arriver à une expression, à une vision, une communauté politique qui est définie vraiment par la solidarité et par une vision partagée, plutôt que par ces catégories, en fait.
Et justement, pour rebondir là-dessus, je pense que le personnage d'Eslanda Robson, dans sa démarche aussi, qui est donc une intellectuelle et anthropologue africaine-américaine, est aussi dans cet état d'esprit, mais depuis les États-Unis, et dans ces deux voyages qu'elle fait sur le continent, peut-être.
Oui.
C'est l'occasion de parler d'Eslanda.
Oui, et de oui, sa, oui.
Pourquoi tu choisis. Enfin, c'est la seule africaine-américaine qui s'intéresse à l'Empire. Au sens large.
Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre peut-être d'avoir une Américaine dans cette liste de femmes parce qu'elle elle ne vivait pas vraiment dans l'Empire français. Mais Eslanda Robson est une femme qui a beaucoup voyagé. Donc elle a rencontré en fait presque toutes les femmes que j'évoque dans le livre, surtout parce qu'elle voyage beaucoup. Elle faisait des entretiens. Donc c'était des voyages qui rentrent un peu dans le cadre anthropologique parce que elle faisait des études d'anthropologie et elle voulait partir en Afrique pour un peu étudier les gens. Mais en tant que femme noire, elle voyait déjà que son point de départ était différent de ses professeurs d'anthropologie parce qu'il s'agissait pas de regarder et d'étudier l'autre. Il y avait une partie de soi dans l'autre. Donc déjà, elle s'interroge beaucoup sur sa place à la fois en tant qu'Américaine, mais aussi en tant que femme noire voyageant en Afrique centrale, d'abord en Afrique du Sud et après en Afrique centrale. Pour Eslanda Robson, c'est vraiment une question de solidarité. C'est-à-dire que l'impérialisme aux États-Unis, quoi dire, c'était extrêmement violent. Pas plus violent que dans les colonies françaises, ce n'est pas l'impression que je veux donner, mais c'était violent. Et pour elle, pour trouver une solution, il fallait, comme j'ai dit tout à l'heure pour André Blouin, il fallait dépasser les frontières de son pays. Parce que la logique de la suprématie blanche qu'elle voyait dans la ségrégation, dans Jim Crow aux États-Unis, c'est la même logique qu'elle voyait dans les colonies françaises. Et donc, pour elle, il fallait vraiment un travail de solidarité parce que on peut dire un problème qui n'est pas national ne peut pas avoir une solution nationale. Il faut vraiment aller au-delà de l'État-nation. Et donc, voilà, Eslanda Robson, à travers les voyages, va vraiment essayer de faire ce travail de solidarité qui est à la fois de connaître, de se rapprocher, en fait, ce travail de rapprochement avec l'autre qui n'est pas l'autre. C'est une façon de voir, en fait, le monde noir tout en résistant l'optique cette hiérarchie de pouvoir, en fait. Donc voilà, c'est un personnage vraiment intéressant. Et oui, je pense que je vais laisser la réponse là.
Puisqu'on a fait presque le tour, on va la faire en entier. Donc on va parler de Hawa Keïta. Alors, ce qui est particulièrement notable avec Hawa Keïta, bon, d'abord, c'est qu'elle est vraiment une très grande figure de l'anticolonialisme et de l'indépendance en Afrique en général. Et Hawa Keïta, alors, de toutes ces femmes dont tu as parlé, elles ont quand même en commun toutes de venir des classes privilégiées de la société. Elles ont toutes fait des études longues, elles ont tout un rapport avec l'Occident à un moment ou à un autre, etc. Et elles ont toutes travaillé dans les hautes sphères, soit politiques, soit culturelles et intellectuelles de leur temps. Hawa Keïta, c'est différent, parce qu'Hawa Keïta, elle est donc sage-femme, et elle travaille dans les zones rurales du Mali, parce que, par son activisme anticolonial, le gouvernement colonial français passe son temps à la déplacer et à l'envoyer au fin fond du Mali rural en pensant la dissuader de continuer à militer et à mobiliser les gens. Et à partir peut-être du cas d'Hawa Keïta, je pense que c'est comme ça que tu arrives à traiter la question notamment du sujet pluriel. C'est-à-dire que subitement, là, ton livre, il quitte justement une certaine manière de raconter l'histoire de l'anticolonialisme comme de l'histoire en général, c'est-à-dire les grandes figures, pour entrer dans la question de l'acteur collectif et de ce qu'est la place d'une communauté de femmes, par exemple, comme dans le cas du Mali évoqué par Hawa Keïta, et la place que va leur donner Hawa Keïta en tant qu'autrice et en tant qu'activiste pour se mettre derrière, finalement, cette collectivité. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu lis l'action d'Hawa Keïta, dans la manière dont tu lis son livre, son grand livre, qui s'appelle Femmes d'Afrique, et du rapport que tu fais entre la manière dont elle décrit les mouvements indépendantistes en Afrique de l'Ouest, par exemple, en comparaison avec la lecture que va en faire quelqu'un comme Sambène Ousmane, grand écrivain et cinéaste sénégalais, qui a beaucoup représenté le mouvement anticolonial dans son œuvre, mais qui le fait justement d'une manière très différente d'Hawa Keïta.
Oui, donc Hawa Keïta, elle est superbe parce qu'elle nous oblige à raconter l'histoire différemment. Et c'est un peu ça aussi l'objectif de ce livre. C'est de se dire, enfin, pourquoi mettre l'accent sur les femmes? Pourquoi écrire un livre sur les luttes anticolonialistes uniquement du point de vue des femmes noires? Ben, l'objectif, c'est de poser la question, si on déplace vraiment le point de vue, est-ce que l'histoire change aussi? Est-ce qu'on se pose des questions différentes? Ou bien est-ce qu'on voit l'histoire de manière différente? Et avec Hawa Keïta, on voit que la réponse est vraiment oui. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus... Ce n'est pas... Bon, le livre, ce n'est pas une biographie. Mais avec Hawa Keïta, encore moins. Justement parce que Hawa Keïta évite vraiment de dire « je ». Même si ce que j'analyse, c'est son autobiographie. Et donc, c'est une autobiographie qui dit très, très, très rarement « je », qui parle souvent « nous ». Et elle, ou qui dit souvent « nous ». Et là, elle parle en fait de travail qu'elle a fait avec des femmes au milieu rural au Mali. Et ce sont des femmes qui, pour la plupart, ne savaient ni lire ni écrire, en fait. Et donc, Hawa Keïta devient une sorte de secrétaire pour un mouvement féminin qui autrement aurait été complètement oublié, en fait. Elle écrit son autobiographie, c'est à peu près 400 pages. Et sur les 400 pages, elle parle de sa vie personnelle sur 10 pages. Vraiment, les 390 pages qui restent, c'est vraiment pour raconter l'histoire de nous, de ce que ça voulait dire de travailler avec ces femmes qui, en fait, venaient accoucher au centre médical, enfin, là où elles travaillaient en tant que sages-femmes. Et durant la nuit, ben, elles avaient ces réunions clandestines pour parler de où il fallait aller voter, comment il fallait s'inscrire, d'organiser des transports pour emmener. Donc, vraiment, les questions pratiques. Parce que c'est bien de dire, oui, on a maintenant le suffrage féminin, il faut que les femmes aillent voter, mais où, comment? Enfin, c'était vraiment complètement nouveau pour elles. Et donc, voilà, Hawa Keïta nous oblige à raconter l'histoire différemment. Et quand je dis différemment, je parle vraiment de cette tendance de la biographie du grand homme. l'histoire de la lutte contre l'apartheid, c'est vraiment l'histoire de Nelson Mandela. L'histoire de l'indépendance au Ghana, c'est l'histoire de Kwame Nkrumah, etc. Mais là, avec Awa Keïta, il n'y a pas vraiment un personnage singulier qu'on peut mettre sur le pédestal et dire « oui, voilà le chef ou le leader de ce mouvement ». C'est vraiment toujours une voix collective qui est mise en avant, qui est privilégiée. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, je ne trouvais pas son autobiographie, en fait. J'ai dû l'acheter une copie dans une librairie où ils vendaient des livres d'occasion, en fait. Justement parce que c'est un livre qui est tellement difficile à catégoriser, ça ne rentre pas dans notre manière de comprendre l'histoire, que c'est un livre qui a longtemps été oublié. Mais c'est ça aussi qui fait la valeur du travail d'Awa Keïta, c'est sa manière, cette vision féministe, on va dire, de privilégier vraiment le collectif féminin plutôt que le personnage individuel, enfin le grand homme. Donc voilà, la dernière chose que je dirais, parce qu'à chaque fois je promets de donner des réponses rapides et puis ça devient voilà, la grande thèse. Mais vraiment, la dernière chose que je dirais, c'est que contrairement aux autres femmes, Awa Keïta est aussi la seule qui renonce à sa nationalité française, qui rejette complètement son passeport français parce que pour elle, ça devenait un obstacle. Parce qu'elle pouvait voter pour des élus en France, mais pas dans les élections locales. Et pour elle, son travail, c'était vraiment local. Sa vision, c'était vraiment sa communauté locale. Et donc voilà, Awa Keïta, pour elle, contrairement à Paulette Nardal, par exemple, qui va dire que c'est à travers les lois françaises qu'on va retrouver cette protection contre l'exploitation chez nous. Pour Awa Keïta, c'était plutôt un obstacle qu'autre chose, et donc elle renonce à sa nationalité française. Donc quand je dis qu'il y a des visions et des stratégies différentes dans cette lutte chez toutes ces femmes, c'est vraiment, ça aussi, c'est un exemple de ces différences.
J'ai une dernière question à te poser.
Oui.
Et après, si vous voulez peut-être discuter avec Annette. Non, c'est dans les différentes présentations qu'on a faites, c'est quelque chose sur lequel tu as insisté, et c'est même le sous-titre de la version américaine du livre. Donc, il y a tout un axe de travail dans ton livre autour de la notion d'une citoyenneté décoloniale. Ce qui peut apparaître un peu comme une sorte d'oxymore, oui. Parce que comment la citoyenneté, qui est quand même un principe d'appartenance politique particulièrement occidentale, pourrait-il être décolonisé ou en voie de décolonisation, voilà. Et c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup pour lier l'œuvre, tant politique que littéraire, on n'a pas parlé de la littérature encore, mais bon, peu importe, on peut pas tout parler de tout. C'est une notion que tu utilises pour lier finalement ces femmes les unes aux autres, en disant que toutes, à l'endroit où elles sont, avec les moyens qui sont les leurs, avec leurs outils respectifs, elles œuvrent à une forme de citoyenneté décoloniale. Est-ce que tu pourrais expliquer le concept que tu as développé là, de citoyenneté décoloniale?
Oui, parce qu'après tout, enfin, pourquoi réunir ces femmes dans un livre? Surtout parce que j'ai beaucoup insisté sur les différences dans leur vision, dans leur stratégie politique. Pourquoi les réunir? Justement parce que chez chacune de ces femmes, je vois cette tentative de viser, comme je dis, une citoyenneté décoloniale. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté décoloniale? En fait, d'abord, la distinction entre nationalité, comme enfin, la relation entre l'individu et l'État-nation. Donc voilà, je suis française, j'ai mon passeport français, etc. Et la citoyenneté comme vraiment une idée plus large d'appartenance. D'appartenance qui va au-delà de l'État, de l'État-nation. Donc vraiment, d'appartenir à plusieurs communautés. C'est aussi cette idée de multiplicité. De communauté. Donc, quand on pense à la citoyenneté, on pense à cette appartenance à plusieurs communautés, comme des communautés panafricanistes, par exemple. On pense au pan-caribéanisme. On pense vraiment à des niveaux différents. On pense à Slander Robson qui parle du Sud global. Donc, vraiment, cette solidarité à travers tout le monde des communautés qui subissent l'oppression impérialiste. Donc, la citoyenneté décoloniale, c'est cette appartenance, la partie citoyenneté, mais qui travaille avec ou qui lutte contre les logiques impérialistes. Donc, par exemple, les termes imposés par le colonialisme comme les termes d'appartenance. On a commencé cette conversation en parlant de l'assimilation, par exemple. Donc la citoyenneté décoloniale va refuser l'assimilation comme critère d'appartenance, qu'il faut vraiment, atteindre un certain niveau pour mériter la nationalité française, pour mériter d'être français. Et quand je dis un certain niveau, en fait, il faut vraiment s'assimiler en fait, à une culture définie par l'État colonialiste. Donc c'est le refus de tout cela, c'est le refus de l'amalgame qui est fait en fait entre l'homme H majuscule, qu'on nous dit est universel, l'homme représente tout le monde, sauf que ce n'est pas le cas. L'homme H majuscule défini au XVIIIe siècle est bel et bien un homme blanc, masculin, chrétien au début et ensuite rationnel. Donc c'est vraiment un personnage, voilà, c'est un personnage qu'on nous dit universel. Et tout le monde doit vraiment essayer d'atteindre ce niveau. Sinon, on est l'autre. Ben pour la citoyenneté décoloniale, c'est aussi le refus de cet amalgame de l'homme et sa surreprésentation, comme le dit Sylvia Winter, comme l'humain, en fait. Donc, l'homme n'est pas l'être humain. L'être humain est beaucoup plus large comme catégorie ou comme façon de comprendre le monde et l'appartenance. Ce n'est pas juste l'homme H majuscule. Et donc, la citoyenneté décoloniale va en fait refuser tous ces critères qui sont imposés par la mission civilisatrice, comme les critères d'appartenance. La citoyenneté décoloniale propose plutôt d'abord la multiplicité d'appartenance et cette idée d'appartenance qui est définie en fait d'en bas, par les gens dans la communauté elle-même. Donc voilà un peu l'idée qui relie toutes ces femmes malgré leurs différences. C'est que même si elle travaillait au Sénat, même si elle croyait vraiment aux promesses de la République française, à chaque moment, il y avait aussi cette lutte contre les limites imposées par ces termes colonialistes qui les voyaient toujours, qui voyaient toujours ces femmes comme l'autre, en fait. Elle savait qu'étant noire, elle ne serait jamais l'homme H majuscule. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il y avait deux options. Soit on essaie vraiment de s'assimiler, soit on essaie de redéfinir les termes de ce que ça veut dire d'être un être humain, les termes de ce que ça veut dire d'être citoyen française. Et donc voilà un peu la vision de la citoyenneté décoloniale.
Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions ?
Bonjour, j'ai pas de questions, mais juste vous remercier pour cette vision que vous venez de nous montrer. C'est pas une vision binaire, c'est une vision très nuancée de toutes les façons de vivre. Et c'est passionnant parce qu'on nous le raconte rarement tout ça. Donc merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Bonjour. Bonjour. Bonsoir, pardon. Moi, ce que je voulais dire, que c'était pas une question non plus, mais je trouvais ça très intéressant que justement on parle de toutes ces femmes-là. Parce que comme vous l'aviez dit au début, on a l'habitude de nous parler d'Aimé Césaire, Thomas Sankara, tout ça, tout ça. Ces gens qui ont, ces hommes politiques qui ont vraiment donné une voix à l'aspect, à la cause noire, à la négritude, tout ça. Et moi, en tant que malienne, j'y suis née, j'ai grandi, je n'ai jamais entendu parler d'Awa Keïta et j'ai extrêmement honte. Et ça m'a fait penser au fait que donc mon père est blanc et ma mère est malienne. On a vécu au Mali toute ma vie, toute notre vie. Et j'étais placée à l'école française. Dans cette école française, on nous disait, par exemple, qu'il ne fallait pas parler le bambara, il ne fallait pas parler le peul, il ne fallait pas parler nos dialectes. Et on nous instaurait aussi cette idée qu'on va vous montrer tous ces gens-là qui font partie de la culture française, qui font aussi, qui ont aidé aussi un peu à la culture malienne, etc. D'avoir cet avis de bah oui, le colonialisme, ils ont amené ça et ça. Et justement, on nous a, je trouve ça bizarre qu'on, dans le pays dans lequel vous vous installez, vous interdisez aux enfants de ce pays de cultiver aussi leur langage et justement d'essayer d'assimiler, mais presque de manière forcée, le langage justement en France, tout ça. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant du coup d'avoir le nom de plein de femmes qui donc Hawa Keïta, celui que j'ai le plus retenu je pense, qui justement luttait contre ce genre de choses. Du coup voilà.
Oui, absolument. Et enfin, dans ce que vous dites, enfin, je me retrouve dans votre histoire jusqu'à aujourd'hui. Enfin, j'ai dit au début que enfin, je suis ghanéenne, je suis née au Ghana, j'y ai grandi, toute ma famille habite au Ghana. Et lors des rencontres que nous avons faites cette semaine, la semaine dernière, en fait, j'ai des étudiants, enfin des doctorants qui viennent me voir à la fin, qui disent oui, je travaille sur ce sujet, mais sur les femmes ghanéennes, est-ce que vous avez des sources ? Je dis, mais je ne connais aucune femme, enfin, je connais aucune Ghanéenne vraiment qui fait partie de cette histoire. Et elle me donne des noms, elle cite des noms parce qu'elles étudient ça, en fait. Et quelque part, c'est presque comme si on doit partir de chez nous pour avoir cette histoire. Et ça rejoint aussi ce que la dame a dit, ce que la dame vient de dire, parce qu'on raconte très peu ces histoires, en fait, surtout chez soi, justement parce qu'il y a tout un travail d'effacement qui est fait. Parce que ça rentre aussi dans la logique colonialiste qui est toujours là, même si il s'agit des pays indépendants aujourd'hui. Cette logique est toujours là, ce rapport avec la France est toujours là, ce rapport entre les dirigeants africains et enfin le peuple est toujours là. Donc vraiment, c'est tout un travail de sensibilisation qui doit continuer. Justement, je prends exemple sur Hawa Keïta parce que c'est ce qu'elle faisait, en fait. Et je pense que c'est un travail qui doit continuer. Donc, déjà, quand je rentre, je vais faire un peu de recherche sur le Ghana pour ne pas avoir... Mais c'est vrai qu'on ressent quand même cette honte parce qu'on se dit, mais c'est pas possible que c'est chez soi et on connaît si peu, en fait. Ouais.
Et aussi, le fait est que vous parliez du fait qu'elle partait aider dans les zones très rurales ces femmes qui n'avaient pas forcément un accès à l'éducation et du coup ne pouvaient pas voter et participer à la vie politique de leur pays, en fait, parce qu'elles ont été mises de côté toute leur vie. Et je ne sais pas si ça a vraiment avancé maintenant que je regarde... Là, parce que ma mère a une association du dépistage du cancer du col de l'utérus, pareil, dans les zones rurales à Bamako, au Mali en général. Et pareil, ce sont des femmes qui sont complètement mises de côté, même dans leur propre santé, en fait, dans leur vie sexuelle. Et de voir qu'à cette époque-là, il y avait déjà cette lutte, et de voir qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément bougé, c'est pas décevant, mais c'est triste, et je comprends pas comment on en est encore à ce stade-là, en fait.
Oui, enfin, oui, il y a du travail à faire toujours, et je pense que ce sera le cas dès qu'on reste dans ces structures des pays qui sont indépendants, mais pas vraiment postcolonial, on va dire. Mais je pense que l'exemple d'Hawa Keïta me donne beaucoup d'espoir parce que, en fait, pour elle, c'était une façon différente de comprendre l'accès aux soins, l'accès à la représentation politique. Parce que ces femmes, enfin, avec qui elle travaillait, elles ont quand même voté. Elles votaient, mais à chaque élection, elles ne parlaient aucun mot de français. Mais elles arrivaient, elles votaient et elles partaient. Parce qu'elles comprenaient comment ça se passait, en fait. Il y avait toute une éducation qui prenait en compte leur façon de s'exprimer, leur façon de comprendre le monde, leur façon de choisir leurs dirigeants, etc., qui ne passait pas du tout par l'éducation française. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est une stratégie possible aujourd'hui, de penser toujours à contourner un peu ce qu'on nous dit, comme c'est à travers l'éducation formelle que nous allons comprendre, etc. C'est vraiment en s'ancrant vraiment dans la communauté, en fait, que à mon avis, qu'on va avancer là-dessus.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Oui, ben, grand merci, encore mille merci pour cet ouvrage, cette recherche. C'est précieux et merci aussi au travail des éditoristes parce que c'est aussi important de faire exister. Alors, j'ai une question, petite question. parce qu'en arrivant ici, j'ai pris ni le temps. Enfin voilà, j'ai pris. Vous avez pas. Je vais le lire, bien sûr, mais c'est à venir. Et donc, je découvre donc le propos et aussi l'échelle spatiale temporelle du livre. Et du coup, je regarde le titre en anglais et je regarde le titre en français. Et en fait, quand je voyais le titre en français, c'était donc Imaginez la libération des femmes noires face à l'Empire, point. Et en anglais, c'est Reimagining Liberation, How Black Women Transformed Citizenship in the French Empire. Alors, question aux éditorices. Pourquoi l'épithète français a disparu du qualificatif de l'Empire ? Ce qui aurait été plus éloquent et surtout plus conforme à l'intérieur et surtout aussi pour nous, un projet d'édition français, pour connaître nous aussi notre histoire et aussi se déconstruire. Donc voilà, donc déjà à moi, question. Et ensuite, oui, j'avais du coup découvert récemment, enfin il y a une petite 8-9 ans, peut-être dans la revue Comment s'en sortir, qui était coordonnée, je crois, à l'époque par Elsa Dorlin. Je reconnaissais le nom Nardal, mais pour moi, c'était les sœurs Nardal. Et donc là, ici, vous n'avez parlé que de Paulette. Et Jeanne, c'était Vial, donc ce n'était pas l'autre Nardal. Et donc, du coup, je me dis, l'approche, est-ce que du coup... parce que moi, je les associe vraiment toutes les deux, mais sans vraiment finalement les connaître. Donc, c'est peut-être aussi mon ignorance qui fait que je les associe un petit peu facilement. Eh bien, pour l'instant, c'est bien. Comme ça va pour moi. Ça suffit pour l'instant.
Alors, peut-être, moi, je peux répondre par rapport à la question du titre et du sous-titre. Et puis, si tu veux répondre sur les sœurs Nardal. Donc, effectivement, le titre original, c'est donc Réimaginer la libération, qui implique un angle différent. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un point de vue sur la libération. Donc, c'est à la fois la libération de l'occupant nazi, c'est la libération du joug colonial, et il s'agirait donc, dans la version américaine du titre, de se refigurer la manière dont ça s'est passé en y incluant le rôle des femmes, évidemment, dans cette histoire. Alors, la raison pour laquelle on a choisi de ne pas le traduire « réimaginer la libération », mais « imaginer la libération », c'est d'abord pour une raison très, très, très idiosyncratique, très propre à la langue, c'est que le réimaginer en français, c'est quand même crado, quoi. En anglais, ça passe beaucoup plus facilement. En fait, on peut faire facilement des mots comme ça. En français, ça marche parfois. Parfois, ça marche pas. Donc là, vous trouvez que réimaginer, c'était compliqué. Et alors, quand on enlève donc le préfixe, alors ça change la perspective. Et tout d'un coup, ça fait qu'on centre sur ces femmes et la manière dont elles vont imaginer ce qu'est une libération depuis l'endroit où elles sont.
Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi des femmes noires face à l'Empire, pour justement pas avoir l'idée de les femmes noires face à l'Empire de manière générale. Ce « dé » pour nous était très important, qui permettait de montrer justement cette espèce de... toutes ces stratégies différentes, variées, liées aux expériences de chacune, comme l'a expliqué Annette, pour justement imaginer la libération de, à la fois au sein de l'Empire, hors de l'Empire, enfin toutes les... voilà, c'est comment...
Et ensuite, là,
voilà. Vas-y, je t'en prie.
Par rapport au sous-titre, donc pourquoi il n'y a pas écrit l'Empire français, c'est principalement en raison du lien qui est fait entre ces six femmes et Eslanda Robson, qui est donc le dernier chapitre du livre, qui est une africaine-américaine et pour qui le contexte français, de l'Empire français, avec sa spécificité, n'est jamais qu'une des manifestations de ce qu'elle perçoit comme étant une problématique qui excède grandement la France, c'est-à-dire la problématique impérialiste en général. Qu'elle soit vécue, le premier voyage que fait Eslanda Robson en Afrique, elle le fait dans l'Afrique coloniale britannique. Elle va d'abord en Afrique du Sud, puis en Ouganda, elle passe aussi au Congo belge. Donc sa première expérience de la colonisation de l'Afrique, ce n'est pas une expérience par la colonisation française. C'est lors de son second voyage qu'elle va aller spécifiquement, parce qu'en fait, effectivement, elle a un projet d'article et elle veut refaire le trajet de Félix Eboué en Afrique, où elle va se rendre en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun, puis en Centrafrique, puis au Congo-Brazzaville. Et donc, elle va avoir affaire là au colonialisme français en Afrique. Mais ce qu'amène Eslanda Robson dans la discussion, c'est précisément, tout en prenant en compte la spécificité du colonialisme français, de dépasser cette question et effectivement de voir que les seules solutions véritablement pérennes qui sont apportées par ces militantes à l'hydre de l'impérialisme, c'est la solidarité internationale, voire même transnationale. Voilà. C'est cette idée que Eslanda Robson va théoriser sous le nom donc du Sud global, qui est une idée fondamentale, qu'on peut appeler le tiers-mondisme si on veut le voir sous un autre angle. Mais c'est-à-dire que finalement, il y a une communauté d'oppression. C'est aussi une idée d'ailleurs qui se retrouve chez Du Bois, qui est très importante, voilà, qui parle de cette solidarité du monde noir avec tous les mondes colonisés, en fait. Parce que tous subissent la même oppression du même oppresseur, c'est-à-dire l'Occident. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ça permet aussi de dépasser la limitation au contexte historique français qui est néanmoins là et de voir que c'est une problématique qui a toujours été globale. Voilà. Quel que soit l'âge du colonialisme qu'on veut bien prendre et quel que soit le point d'entrée dans le colonialisme qu'on veut prendre. Voilà. Ça a beau être le Cuba des Espagnols, le Ghana des Anglais ou la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, des Français, on reste dans une logique qui est globale. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de nommer ça l'Empire au sens le plus vaste et le plus générique possible. Mais sans majuscule, parce que l'Empire, avec une majuscule en France, c'est Napoléon, bien sûr.
Le titre en anglais était le choix de mon éditeur aux États-Unis. Mais uniquement, enfin, la raison, c'est vraiment parce que je suis nulle en titre, en fait. Je lui ai proposé plein de titres, elle m'a dit non, c'est nul. Et je reconnais que c'était vraiment nul. C'était vraiment académique, c'était lourd, c'était Decolonial Citizenship. Donc, la citoyenneté décoloniale, je ne sais pas qui allait lire un livre aux États-Unis intitulé Decolonial Citizenship, mais. Pour elle, ce n'est pas un titre qui vraiment parle aux gens, mais aussi le titre qu'elle a choisi, en fait, enfin, j'aime bien. Elle a juste repris mon langage dans le livre, en fait. Et elle m'a proposé ce titre que j'ai beaucoup apprécié parce que ça met l'accent sur les femmes. How Black Women Transformed Citizenship. Donc, il y avait quand même la partie citoyenneté, etc., mais sans vraiment... tout ce qui est law académique, decolonial citizenship. Donc voilà, donc j'aime bien le titre en anglais. Il faut dire qu'il y a... Alors, le livre est sorti en 2020. Dans les années précédentes, il y a eu quand même pas mal de livres écrits par des femmes historiennes, des femmes noires historiennes aux États-Unis, travaillant un sujet similaire, mais d'une partie du monde complètement différente, c'est-à-dire les États-Unis aussi dans cette période. Donc, je pense surtout au livre de Ashley Farmer, par exemple, qui est historienne, qui a travaillé sur les African American aussi aux années 30, 40, 50, 60, etc. Remaking Black Power, How Black Women. Donc, c'est vraiment, il y a une sorte de formule, en fait, qui existe, que les éditeurs aiment beaucoup. Et ils disent, voilà, toutes les femmes noires, le titre, c'est assez similaire. Pour moi, ça me va bien de voir le livre vraiment inscrit dans ce cadre avec d'autres livres qui traitent un sujet similaire. Donc, ça fait vraiment plusieurs livres dans ce cadre. Donc, pour le titre en français, j'aime bien. J'aime bien tout ce qu'ils font, Édition Haute-Beaucrit. Donc, j'étais d'accord avec leur choix. Et voilà. La dernière chose que je dirais, c'est une question vraiment intéressante sur Paulette Nardal et les sœurs Nardal. Donc, pourquoi Paulette uniquement et pas les sœurs, si je comprends bien la question. C'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé à ça, justement parce que je voulais vraiment me concentrer sur une partie précise de la vie de Paulette, qui était sa vie en Martinique, qui est sa création du Rassemblement féminin, qui est l'association qu'elle avait créée, en fait, et qui est son travail en tant que rédactrice de La Femme dans la Cité, qui est la revue du Rassemblement féminin. Et donc, j'analysais vraiment les écrits de Paulette Nardal à ce moment-là. C'est aussi un moment où, je ne vais pas dire qu'elle était isolée, mais c'était un moment très difficile dans sa vie parce que quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, comme je dis, elle a tenté de rentrer à Paris où elle avait un appartement, mais elle n'y est jamais arrivée en fait parce que le paquebot sur lequel elle voyageait a été attaqué et coulé en fait par un sous-marin allemand. Donc elle a vraiment subi des blessures de guerre. Et elle a demandé des indemnisations de la part du gouvernement français qui ont été refusées. Et donc, c'était une période qui était financièrement très difficile pour elle. Au niveau de son moral aussi, c'était très difficile pour elle parce qu'elle elle a gardé ses blessures, enfin, les séquelles de ses blessures pour le reste de sa vie, en fait. Et donc, c'est vraiment une vision de Paulette à une période où elle n'est pas vraiment entourée par ses sœurs, ou au moins dans ses écrits, il y a pas vraiment cette réflexion, ou enfin ces voix qu'on va entendre, comme par exemple dans les revues qu'elle va diriger en France, où Jeanne Nardal va aussi écrire dans ses revues. Ce n'est pas vraiment le cas avec la femme dans la cité en Martinique. Donc, puisque il s'agit d'une partie précise de sa vie, c'est pour ça qu'on la voit un peu seule à ce moment-là.
Merci. Je voulais poser une question. Bon, si peut-être vous pourriez nous raconter un peu quels ont été les écueils ou des écueils que vous avez dû traverser pendant votre recherche et l'écriture de ces livres, ou si au contraire, peut-être en travaillant aux États-Unis sur ce sujet-là, ou si au contraire, il n'y a pas eu vraiment de grandes écueils. Et oui, comment c'était l'expérience?
Oui. Donc, j'ai travaillé sur ce livre. En fait, j'habitais en France quand j'ai travaillé sur ce livre. Et ça m'a donné accès aux archives en France. Donc, des archives à Paris, à Aix, à Marseille, surtout pour Jeanne Vial. Et puis, quand je suis retournée aux États-Unis, j'ai pu consulter aussi les archives d'Eslanda Robeson à D.C. Et donc, en fait, vivant en France m'a facilité un peu cette tâche qui aurait été plus difficile si j'habitais aux États-Unis. Par contre, la grande difficulté que j'ai eue, c'était d'avoir accès aux archives en Afrique. Donc, vous allez remarquer que dans la bibliographie, il n'y a pas d'archives en Afrique du tout, ni au Mali. Voilà, j'ai vraiment dû me focaliser sur les autobiographies comme les sources d'archives, les autobiographies publiées. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'archives en Afrique, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment que, étant formée aux États-Unis et habitant en France, je ne savais pas du tout comment faire, en fait. Je ne savais pas à qui m'adresser, je ne savais pas où aller pour trouver ces documents. C'est quelque chose que je pense que je sais maintenant comment faire ça, mais à cette époque-là, c'était vraiment opaque pour moi. Et c'est vraiment mon plus grand regret. Donc, je dirais que c'est la chose la plus difficile pour moi parce que ça privilégie toujours les documents qui sont ici. Donc, même si je dis que je veux déplacer le point de vue, la France reste quand même le lieu où tous les documents se retrouvent. Après, pour des raisons coloniales, mais aussi parce que dans ma formation, je ne savais pas à ce moment-là comment faire ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà.
Donc, je me pose une question, mais parce que j'ai fait une petite, on a fait avec des camarades un petit topo sur les théoriciennes des savoirs situés, de l'épistémologie, du positionnement, etc. Et là, vous avez cité tout à l'heure Robson qui, dans sa démarche d'anthropologue, justement, elle a twisté un peu son positionnement en tant qu'en effet scientifique, observatrice, participante, etc., mais se situant, sachant aussi, le fameux trio de la science rationaliste, voilà, comme vous l'avez dit, le projet moderniste, c'est-à-dire objectivité, neutralité, universalité. Et du coup, est-elle à rajouter dans l'histoire des sciences, a-t-elle écrit quelque chose justement là-dessus, ou elle a réexplicité dans sa démarche scientifique ce qui, après, dans les années 80, a été nommé et savoir théorie standpoint, théorie savoir situer ou non. Voilà. Est-ce que vous le savez ou pas, c'est pas bon, comme ça.
Oui. Oui, donc elle écrit quand même pas mal sur ça, en décrivant d'abord même dans Voyage africain.
Dans son journal.
Oui, dans son journal. Donc Voyage africain qui a été publié, mais l'autre, en fait, son carnet de voyage, du deuxième voyage en Afrique centrale, n'a jamais été publié, en fait. Donc c'est vraiment juste un tapuscrit qui est des feuilles vraiment qui ne sont même pas reliées, qui sont dans les archives aujourd'hui. Mais dans ces deux textes, en fait, elle parle beaucoup de ça, à la fois en faisant référence à sa formation en tant qu'anthropologue, mais aussi, comme vous avez dit, en détournant un peu ses théories pour repenser son positionnement en tant que femme noire en Afrique. Donc, elle en parle beaucoup et je pense qu'on peut même penser à une théorie robsonienne de positionnement. Sauf que puisque ça n'a jamais été publié, c'est pas beaucoup connu. Mais je vous laisse.
On a décidé ensemble de faire le journal a été traduit aux éditions, aux nouvelles éditions Place, le premier.
Ouais. Mais chez Eslanda Robson. Ouais. C'est quand même articulé d'abord à une question politique. C'est-à-dire qu'elle se retrouve à étudier l'anthropologie sur le tard. En fait, elle a déjà presque 40 ans. Et c'est au milieu des années 30, 35-36. Et à ce moment-là, alors c'est sa biographe, Barbara Ransby, qui raconte ça. C'est probablement Zora Neale Hurston qui lui aurait dit, si tu veux écrire sur les Noirs, fais de l'anthropologie. Ce que faisait Zora Neale Hurston. C'est-à-dire que c'est un bon moyen, avec l'appareil scientifique, la légitimité de l'anthropologie coloniale, de venir dire autre chose et de participer à l'anticolonialisme d'un point de vue théorique, mais tout en étant lisible dans le monde occidental. Et c'est probablement une des raisons importantes pour lesquelles elle a choisi de faire de l'anthropologie. Et ensuite, dans sa manière de construire, par exemple, ce livre, Voyage africain, qui a été publié en 1945, et qui est un livre qui a été très important aux États-Unis parce que c'est le premier récit sur l'Afrique écrit par une Africaine-américaine. Et il a eu... Tu dis les mêmes mots que moi à côté. Tu voulais dire...
Non, pas
du tout. Ma grand-mère, elle me demande pas au téléphone.
Non, on a beaucoup travaillé sur ensemble.
Mais par exemple, ce qui est très intéressant avec Eslanda Robson dans ce voyage, c'est non seulement que... Donc elle raconte donc son déplacement en Afrique, elle fait son terrain en Ouganda avec les pasteurs Batoro, et systématiquement, elle pose des questions qui sont très inhabituelles en 1934 et qui relèvent d'un vocabulaire du savoir situé. C'est-à-dire que systématiquement, quand elle arrive quelque part, elle dit « Où sont les femmes ?» Parce que toujours, on lui montre les hommes. Donc elle est reçue par les hommes, elle est reçue dans la case principale. Il y a tous les hommes importants qui sont là, qui la reçoivent, même si c'est une femme, parce que c'est une Américaine, c'est une étrangère, etc. Et systématiquement, elle dit « Où sont les femmes ? Où sont-elles ? Voilà. Où sont-elles en train de travailler ? Montrez-les-moi, personne ne veut jamais les lui montrer, etc. » Et elle va, et donc ça, c'est évidemment de par sa position d'anthropologue femme qu'elle va chercher d'abord ce genre de questions que ne posaient pas les anthropologues hommes. Voilà. Et en même temps, l'enjeu qui est le sien, et on le sent très bien dans le livre, c'est un enjeu, je vais dire, de chez elle, local. Bien sûr, elle est dans une perspective internationaliste. Bien sûr, elle va chercher à, disons, déplacer les codages coloniaux de l'anthropologie. Mais c'est un livre qu'elle écrit pour les Américains. Pour les Américains, et elle l'écrit d'abord pour les Africains-Américains. Pour leur dire... Ce qu'on vous raconte, et elle le dit explicitement dans son livre, ce qu'on vous raconte depuis toujours sur l'Afrique, à savoir une terre de sauvages, cannibales, etc., dont vous devez avoir honte de venir et qui justifie qu'on vous a réduit en esclavage et qu'aujourd'hui vous êtes en état de minorité, est un mensonge. Voilà. Et la raison pour laquelle. Et donc, elle a créé des liens, et là aussi, c'est un savoir extrêmement situé, où elle passe son temps à comparer les situations qu'elle rencontre dans l'Afrique coloniale avec le monde américain. Donc, par exemple, elle parle, à un moment, elle est à. Je crois qu'elle est à. Pardon, à Mombasa, où, non, pardon, elle est dans un port colonial britannique, et elle dit « Ah, ça me fait penser à Détroit !» Elle fait des comparaisons comme ça, où elle parle d'une fête dans laquelle à laquelle elle assiste à l'occasion d'un mariage en Afrique du Sud, et elle dit « Ah, ben, c'était vraiment exactement comme un mariage dans le sud des États-Unis. » Elle passe son temps à comparer, depuis son point de vue d'américaine, les situations qu'elle rencontre dans l'Afrique supposément sauvage, pour dire « Non, non, ces gens vivent. » Alors évidemment, c'est aussi un peu un réductionnisme, mais c'est une perspective politique pour elle, de dire « Ces gens vivent comme nous. » Nous, les Africains-Américains, et ce qu'ils subissent, eux, sous le nom de la colonisation, c'est ce que nous subissons sous le nom de la ségrégation. Voilà. Donc là, son savoir, il est très situé. Elle a une approche de l'anthropologie qui est tout à fait radicale et différente, et qui est quand même d'abord informée par un projet politique, à savoir celui de l'émancipation et de l'anti-impérialisme, de l'anticapitalisme qui la caractérise, etc.
J'ai l'impression que vous avez parlé de citoyenneté décoloniale aussi au présent. Et j'aurais aimé savoir si vous pouvez nous en parler un peu plus, comment vous voyez les choses, vous qui vous êtes baladé en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en France.
C'est-à-dire, est-ce que je vois ça toujours comme...
C'est une question très intéressante.
Je pense que oui, dans le sens où je vois l'héritage de la politique de ces femmes, de leur vision, toujours aujourd'hui. Donc je vois ça, par exemple, dans le refus de certains jeunes en France de cette logique d'assimilation qui existe toujours. Aujourd'hui, on l'appelle intégration, mais à mon avis, c'est la même chose, ça a les mêmes racines. Je vois cet héritage dans les associations afroféministes, dans certaines associations afroféministes en France aujourd'hui, ou aux Antilles aujourd'hui. Donc oui, je vois toujours des pratiques de citoyenneté décoloniale. Je peux moins parler de l'Afrique actuelle, enfin aujourd'hui, mais aux Antilles et en France, oui. Je vois ça d'abord dans le refus, mais je vois ça aussi dans ce que les gens essaient de bâtir dans des mouvements de solidarité qui traversent vraiment ces frontières, donc qui mélangent plusieurs questions à la fois, des questions de l'exploitation au travail, par exemple. Donc je pense au mouvement, par exemple, en 2009 en Martinique et en Guadeloupe, ce refus de cette exploitation qui a un lien toujours avec les pratiques impérialistes, en fait, à la fois de la France et aussi des descendants des colons en Martinique et en Guadeloupe. Donc oui, je vois ça toujours parce que le problème auquel la citoyenneté décoloniale voulait répondre existe toujours. Et donc, je vois ces pratiques toujours de manière différente, bien sûr, aujourd'hui, dans ces exemples, mais aussi, et bien sûr, aux États-Unis. Donc, je pense, par exemple, à Black Lives Matter, qui est menée pour la plupart par des femmes noires. Je pense au mouvement contre la violence policière, ici en France, qui est aussi menée en partie par des femmes noires. Donc voilà, je vois toujours ces pratiques, ce refus de ces logiques aujourd'hui. Et je pense que tant qu'il y aura le colonialisme, parce que ce n'est pas encore fini, il y aura toujours ces pratiques de citoyenneté décoloniale.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Alors merci pour cette rencontre.
Merci à vous.
C'était Rencontre avec Annette Joseph Gabriel autour de son ouvrage Imaginez la libération, des femmes noires face à l'Empire, paru aux éditions Robocrique.
Radio Livre.